Alors, voici le programme du voyage. Les 8 journées, mais en réalité 7 en ce qui concerne les visites exactement, alors à la qui se partagent entre la Toscane Sud et l'Ombrie. Et puis ici, vous voyez les déplacements à partir de notre lieu de séjour, Chianciano Terme. Donc, tout a commencé le samedi 20 mai par un vol Air France à 15h05 à destination de Florence pour une arrivée à 16h50. Ensuite, un transfert vers notre lieu d'hébergement qui est Chianciano Terme, accompagné par notre guide Margot, jusqu'à l'hôtel Boston. Et à pied d'œuvre, voici le groupe des 26 aventuriers à Corfien, sur le sol italien, qui se dirige vers Sienne, dans cette région appelée Terre des Étrusques. Voilà, un exemple, voilà, une chimère, et ici, un aperçu de la ville de Sienne. Alors, la visite de cette cité se fera sous l'autorité avisée et bienveillante de Camilla, et nous l'abordons par la citadelle Médicis, construite par Côme Ier en 1553. Et nous poursuivons vers l'église San Domenico, construite entre 1226 et 1465. Voilà. Dans laquelle on remarque l'autel en marbre qui renferme le reliquaire. Nous continuons vers le Palazzo Tolomei du XIIIe siècle, qui appartenait à une famille de banquiers. Et devant celui-ci, la Lupa Senese. C'est un symbole d'une légende selon laquelle la cité aurait été fondée par les fils de Rémus. Nous nous acheminons maintenant vers le Palazzo Salimbeni, qui est le siège du Monte dei Paschi. Alors, c'est la banque la plus ancienne au monde, fondée en 1472. À l'origine, un mont-de-piété, pratiquant le prêt sur gage pour aider les populations défavorisées. Et comme vous le savez, elle fut impliquée dans des scandales financiers en 2007 et 2013. Et dans la cour, une statue du chanoine Salustio Bandini, auteur d'un ouvrage d'économie. Donc nous laissons les financiers pour aller vers la Loggia della Mercanzia. Alors voici un aperçu, une seconde vue, où marchands et changeurs de monnaie se retrouvaient pour leurs affaires sous cette arcade bâtie en 1417. Voilà l'arcade. Puis nous continuons vers le Palazzo Tigi Saracini. Un autre palazzo, le Buon Signori du XIVe siècle, qui abrite une collection de peintures de l'école de Sienne. Entre autres, une Vierge des Franciscains de Duccio de 1285, le bienheureux Agostino Novello de Simone Martini de 1330 et une nativité de Francesco di Giorgio Martini de 1475. Nous poursuivons vers la Piazza del Campo, réalisée en 1293. Et pour nous occuper, nous avons fait un petit tour de cette place. Voilà, un autre aspect. Un troisième. un autre, le dernier. Oui, la Piazza del Campo qui occupe l'emplacement du Forum antique, où huit bandes claires partagent en neuf quartiers le pavage rouge réalisé entre 1327 et 1349. Elle symbolise les plis protecteurs du manteau de la Vierge. Puis, en traversant les contrades, voilà celle de la Selva, une seconde qui est celle de l'Aquila, donc ces paroisses dont l'intense rivalité s'exprime deux fois par an à l'occasion de la course du Palio. Nous atteignons cette place médiévale, l'une des plus vastes d'Europe, où se dresse le Palazzo Pubblico, construit en 1342, dont la tour médiévale, la Torre del Mangia, érigée par les frères Muccio et Francesco di Rinaldo, entre 1338 et 1348, est la deuxième d'Italie par sa hauteur, 102 mètres. Et nous nous arrêtons pour une pause bien gagnée au restaurant Gallo Nero. Après le déjeuner, nous revenons sur la place du Palio pour y découvrir la Fonte Gaia, avec son bassin en marbre orné de statues d'une réplique de relief sculpté par Jacopo della Quercia, 1409-1419. Il représente alors la création d'Adam, avec toujours quelques petits pigeons farfelus, une vierge à l'enfant, Adam et Ève chassés du paradis, avec un attroupement de pigeons, un lion héraldique et enfin les vertus. Nombreux furent les Siennois qui participèrent à la construction entre 1136 et 1382 du Duomo, l'une des plus spectaculaires cathédrales d'Italie, qui mêle les styles romantoscan et gothique. Et voici un détail de la façade. À l'intérieur, le pavement en mosaïque de marbre représente des scènes très variées, réalisées de 1359 à 1547. En voici une seconde. Nous voici dans la nef, avec les colonnes de marbre blanc et vert foncé. Et en bas à gauche, on aperçoit la chaire de Nicolas Pisano. Et là voici, en grandeur nature. Voyons le chœur et son maître-autel de Baldassare et Peruzzi de 1506 et un vitrail de Ducci di Boninsegna. Dans le baptistère San Giovanni, les fonts baptismaux sur lesquels on peut admirer une œuvre Renaissance de Donatello, le banquet d'Hérode. Ainsi que le baptême du Christ de Ghiberti. Et dans le musée de l'Opéra del Duomo, une œuvre de Donatello en marbre blanc, la Madonna col Bambino. réalisé entre 1457 et 1459. Et ensuite, la Maesta de Duccio di Boninsegna de 1308. Ainsi s'achève la première visite riche en découvertes.
Alors, au troisième jour, nous partons vers Gubbio. C'est une ville de 33 000 habitants environ, en Ombrie, dans la province de Pérouse. Elle est située sur les pentes du mont Ingino. Les habitants se nomment les Eugubins. Les Eugubins. Depuis la place au pied de la ville, on peut admirer la longue loggia des tireurs édifiée en 1603 par la corporation des tisseurs de laine qui l'utilisait pour le repassage des tissus. Nous passons devant l'église San Giovanni Battista et nous déambulons avec plaisir dans des ruelles étroites et escarpées. La ville est faite de pierres grises et d'architecture gothique. Beaucoup de maisons datent des XIVe et XVe siècles et à l'origine étaient des habitations de riches marchands. Nous admirons la fontaine aux fous et l'église San Francesco, extérieur, intérieur, et la statue de Saint François. Avec un oiseau. Nous arrivons sur la Grand Place, immense terrasse suspendue au-dessus de la ville. Voilà ce qu'on voit, c'est le haut de la place. Dominée donc cette place par l'imposante silhouette du palais des consuls, construit entre 1330 et 1340. Construit au centre de la ville, cet ancien palais du gouvernement représente la grandeur du projet politique de la commune de Gubbio au début du XIVe siècle. C'est un bâtiment de style gothique, haut de 60 mètres, qui domine la ville avec son beffroi et s'ouvre vers la Grand Place par son perron en éventail. On peut aussi y accéder par ascenseur. Cet édifice a été conçu par Angelo De Orvieto. Il abrite le musée civique, la pinacothèque communale et le musée archéologique qui renferme les tables eugubines, voilà, d'où le nom d'Eugubin des habitants, 1er et 3e siècle avant Jésus-Christ. Ces tables sont formées de 7 plaques de bronze gravées d'un texte en langue ombrienne dérivé de la langue étrusque. Voilà. Elles sont écrites de droite à gauche. C'est une mine d'informations historiques, politiques et religieuses qui sont en quelque sorte l'acte fondateur de la ville. 5 tables sont écrites sur les 2 faces et 2 sur une face. Elles sont de dimension environ 28 sur 40 et 57 sur 87 cm. On trouve également une collection de céramiques qui vont du 14e au 19e siècle. Entre autres des objets pharmaceutiques. Chaque année, au mois de mai, la ville de Gubbio est mise à l'honneur par une fête qui retrace les traditions du Moyen-Âge, la course des cierges où les habitants de 4 quartiers se retrouvent. Les cierges sont en fait 3 énormes pièces de bois de 7 mètres de haut. Donc là, c'est dans une vitrine, c'est pour montrer comment c'est fait. Il pèse plus de 300 kilos, surmonté de la statue d'un saint protecteur. Ils sont fixés à des brancards et portés par des hommes. Alors, il existe un modèle pour enfants. Voilà. Une procession a lieu dans les rues et à 18h, après la bénédiction par l'évêque, commence une course endiablée jusqu'à l'église San Ubaldo. C'est très sportif aussi. Le vainqueur est celui qui a effectué le plus beau parcours. Gubbio est célèbre aussi par le miracle de Saint François et le loup. Au temps où Saint François demeurait à Gubbio, apparut un loup féroce qui dévorait habitants et animaux et qui semait la terreur, personne n'osant franchir les murs de la ville. Saint François s'achemina vers le lieu où était le loup. Ce dernier s'avança, prêt à le dévorer. Saint François fit alors le signe de croix et demanda au loup de ne plus faire de mal dans la ville. À la vue du signe de croix, le loup s'apaisa et se jeta aux pieds de Saint François. Celui-ci lui promit en retour de manger toujours à sa faim. Le loup vécut 2 ans en bonne harmonie avec la population qui le nourrissait et il mourut de vieillesse. Alors, après Goubion, nous nous dirigeons vers Assise. Alors, toutes les photos d'intérieur d'Assise sont des photos prises sur Wikipédia ou sur des livres parce qu'il était absolument interdit de faire des photos dans la basilique. Alors, Assise est une cité médiévale bien conservée malgré le tremblement de terre de 1997. C'est une ville de 30 000 habitants environ, située sur les contreforts du mont Subasio. La splendeur d'Assise a commencé au XIe siècle et a connu son apogée entre le XIe et le XIVe siècle. Lors d'une guerre entre Assise et Pérouse, François d'Assise fut fait prisonnier, ce qui enclencha le processus qui devait mener à la fondation de l'ordre religieux masculin des franciscains. Après déjeuner, nous déambulons à pied dans des petites rues. Nous passons devant le temple de Minerve, la basilique Sainte-Claire, et arrivons à la basilique Saint-François, impressionnante silhouette. C'est un chef-d'œuvre d'architecture médiévale devenu symbole de la ville. Commencé en 1228, ce fut un chantier gigantesque où rivalisèrent les plus grands artistes florentins et siennois des XIIIe et XIVe. Giotto, peintre, sculpteur et architecte florentin, Cimabue, Martini, Lorenzetti. Cette basilique est de conception originale puisqu'il s'agit de 2 églises superposées gothiques avec un campanile de style roman. Il y a l'église inférieure et l'église supérieure. Ces 2 églises sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000. L'église inférieure. De cette magnifique place entourée d'arcades, on accède à l'église inférieure. 1228-1239, on accède par un portail Renaissance et une porte du XIIIe siècle. C'est une église de faible hauteur insérée dans la roche. Elle est sombre. La décoration a commencé dans la nef vers 1260. Les fresques ont été en partie détruites par des ouvertures ultérieures dans les murs. Elle accueille le tombeau de Saint François, mort en 1126. La tombe a été découverte en 1818 dans la roche. Une crypte a alors été réalisée sous le maître-autel. Elle fut dessinée par l'architecte Brizzi d'Assise. Il s'agit d'une nef unique creusée dans la roche, composée de voûtes et croisées d'ogives, qui dévoile des peintures du maître de Saint-François, dont on ignore le nom réel, représentant des scènes de la Passion du Christ et de Saint-François. Les peintures murales, restaurées pour la dernière fois en 1974, ne sont pas des fresques au sens propre, mais des peintures sur enduit sec. En voici quelques-unes. La prédication aux oiseaux. Le Christ, depuis le haut de la croix, confie la Vierge à Saint Jean. Descente de croix. Lamentation sur le Christ mort. On y découvre également des œuvres de Giotto, de Cimabue, Martini et Lorenzetti. Alors, de Giotto, la résurrection de Lazare et Saint François désignant la mort. De Cimabue, la Madone en majesté. De Martini, Saint Vu à mi-corps. De Lorenzetti, résurrection du Christ. On accède après à l'église supérieure qui est de 1230-1253. La voici. La façade de l'église supérieure est simple, avec de modestes ornements sculptés, un portail ogival caractéristique des églises de pèlerinage et une rosace entourée des quatre évangélistes. Matthieu, représenté par un jeune homme, Marc, lion, Luc, taureau et Jean, aigle. Lorsqu'on pénètre dans l'église supérieure, le contraste est saisissant, car il y a beaucoup de luminosité. Tout l'édifice est peint. De nombreuses œuvres ont été détruites lors du tremblement de terre, mais des spécialistes ont réussi à reconstituer certains puzzles. Dans les parties hautes de la nef de l'église figurent des scènes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament exécutées par Cimabue et son atelier. Voici un détail, voici cette nef. Un détail de la voûte de la croisée du transept, c'était avant le séisme, ça. Et le crucifiement de Saint-Pierre. À hauteur d'homme, trônent les 28 célèbres fresques peintes par Giotto, représentant la légende de Saint-François. Elles ont été peintes sur les deux murs de la nef, vraisemblablement entre 1296 et 1300. En voici quelques-unes. François, honoré par un homme simple. Saint François donnant son manteau à un pauvre. Le songe d'Innocent III. La vision de François sur un char de feu. Les diables chassés d'Arezzo. L'épreuve du feu, miracle de l'eau jaillissant du rocher, la prédication aux oiseaux, les stigmates de Saint François, mort et enterrement de François, Claire faisant ses adieux à la dépouille mortelle du saint, la libération de l'hérétique. Voilà, ce sont une partie des 28 représentations. Un cloître du XVe siècle complète cet ensemble grandiose. Voilà l'ensemble. La journée se termine sur de belles images de fresques, mais la visite fut trop courte au goût des voyageurs à Corfien. Vu l'importance du site, il faudrait beaucoup plus de temps pour en admirer toutes les œuvres. Pour revenir à notre époque, un petit tour dans les rues adjacentes pour admirer les spécialités du XXIe siècle. Voilà, ainsi se termine la visite d'Assise.
Alors, je reprends la parole pour vous ramener à la commune d'Arezzo. Alors, l'orfèvrerie qu'elle exporte dans toute l'Europe fait de cette cité l'une des plus riches de Toscane. La visite débute par la cathédrale San Donato, réalisée de 1278 à 1511, avec sur le parvis la statue de Ferdinand Ier de Médicis. Elle offre une façade néo-gothique et à l'intérieur, voici le chœur, le maître-autel avec l'arche de San Donato, un vitrail, d'Andrea della Robbia, la Madonna col Bambino, une crucifixion et Maria Assunta il Cielo et de Piero della Francesca, la Marie-Madeleine. Puis nous longeons la bibliothèque située dans le Palazzo Pretorio, et dont la façade est recouverte de blasons d'anciennes familles, dont celui des Médicis. Nous nous dirigeons ensuite vers la Piazza Grande en parcourant une élégante arcade dessinée par Vasari en 1573. Et nous voici sur la Piazza Grande, où l'on distingue le Palazzo della Fraternità dei Laici, réalisé entre 1377 et 1552, voilà le détail, et la maison tour des Lapoli du XIIIe siècle. Et voici les accorfiens attentifs aux propos de notre guide Anna. Nous sommes maintenant devant l'église paroissiale Pieve di Santa Maria. Avec son campanile dit au centrou. Il s'agit en fait de 40 baies géminées, un ouvrage exceptionnel devenu le symbole de la ville. Et sous le porche d'entrée, une présentation allégorique des mois de l'année. Nous continuons vers l'église San Francesco du XIIIe siècle, où Piero della Francesca peignit de 1452 à 1466 dans l'abside, voilà l'abside, la légende de la Sainte-Croix, dont voici une vue de l'intérieur. Et ce crucifix peint au XIIIe siècle forme le point focal des fresques. Ensuite, voici la défaite de Choroès qui rend aux chrétiens la croix dérobée par les Perses. Alors, il y a deux vues. Voilà la seconde. Ensuite, Constantin rêve de la croix la veille de la bataille contre Maxens. Alors, en bas à gauche. Et il conduit sa cavalerie à la bataille à droite. Nous continuons avec la reine de Saba qui reconnaît le bois de la croix en bas à gauche. Alors en bas à gauche, le déterrement de la croix avec en haut à gauche un aperçu de Jérusalem. Et à droite, un groupe de spectateurs s'agenouille devant Héraclius, vainqueur du Perse Choroès. Je crois que ça, c'est le bois de la croix, oui, qui est enterré. Et enfin, une vue d'ensemble. Et voici venue l'heure d'assouvir notre faim dans une pizzeria. Voilà. Nous continuons notre journée vers Cortone, cité étrusque, bien sûr. Donc, dans cette ville perchée fondée par les Étrusques, le petit musée diocesano, installé dans l'église du Gesù du XVIe siècle, présente notamment une crucifixion de Piero Lorenzetti, réalisé entre 1280 et 1348. Une annonciation de Fra Angelico de 1434. Une déposition de croix, de 1502, une communion des apôtres de 1542 de Luca Signorelli. Et la visite se termine en longeant les remparts et notre guide Anna nous conduit vers le Duomo. Et le Palazzo Comunale. Alors, ça c'est le Duomo, c'est trop vite, bien sûr. Et le Palazzo Comunale, ce qui marque le terme de cette journée. Alors, vous voyez ici le parcours entre Chianciano Terme et Pienza.
Ah, c'est juste à côté, apparemment. Hein. Voilà, c'est le cinquième jour, le mardi 24 mai. La visite de Pienza est au programme. Donc, vous avez une vue d'ensemble de Pienza. Un certain Enea Silvio Piccolomini est né en 1405 dans un village du nom de Corsignano, établi à l'époque médiévale. Ce personnage, issu d'une famille noble, devint l'un des humanistes les plus renommés de son temps. Parmi ses activités littéraires, on remarque des œuvres dites « érotiques », dont l'Historia de Eurialo et Lucretia, Historia de Duobus Amantibus, l'histoire de deux amants. Secrétaire et poète lauréat de l'empereur romain germanique Frédéric III, Enea Silvio Piccolomini fut atteint d'une grave maladie. Je vous montre des fresques qui se trouvaient dans la librairie de Duomo de Sienne. Un ensemble de pintorio tout à fait exceptionnel aussi. Donc Enea Silvio Piccolomini fut atteint d'une grave maladie qui l'amena à corriger sa vie licencieuse en 1445. Il prit les ordres l'année suivante et débuta une grande carrière de diplomate. En 1458, il fut élu pape sous le nom de Pie II. Il est le 210e pape de l'Église. Alors, dans cet ensemble de fresques absolument magnifiques, où étaient conservés les incunables et autres documents précieux, on trouve les éléments principaux de la vie de Pie II. On le voit ici sur son trône pontifical, et puis on le voit ici dans une autre scène. Voilà, c'est un détail de la fresque. La Libreria Piccolomini, donc du Duomo de Sienne, est une salle peinte à fresque au début du XVIe siècle. Le blason des Piccolomini est composé de 5 demi-lunes, ce qui rappelle leur participation à la croisade. Voilà un plan de Pienza. Alors nous sommes arrivés par ici, nous avons suivi en gros les remparts et nous sommes remontés dans cet espace entre deux des bâtiments principaux que l'on va voir en détail. Ici le Palazzo Piccolomini et là le Duomo. Autre élément important, je vais revenir sur les détails après, la ville est traversée par ce Corso Rossellino. Rossellino, c'est l'architecte qui est l'auteur de l'édification de la plupart des bâtiments de ce centre historique. Ce Corso a été créé au moment de la construction du centre historique. Alors voilà, j'ai oublié quand même de vous dire l'orientation. Ici, nous sommes orientés sur une carte normale, c'est-à-dire que le nord est en haut. Et vous voyez tout de suite que la cathédrale est orientée nord-sud, le portail est au nord. Sur le plan suivant, l'orientation est un peu différente, c'est pour ça que j'ai fait le retour en arrière. Voilà, donc le nord est à gauche et le sud à droite, en gros. Vous voyez l'agencement des 4 bâtiments principaux. Donc, l'année suivant son élection, Pie II élève Corsignano, son village natal, au rang de ville et de résidence épiscopale, sous le nom de Pienza, dérivé de Pius, c'était Pio, Pius en latin. Mais moi j'aime bien y voir aussi la contraction, c'est pas du tout historique, de Pio et de Piazza. Pienza est situé sur une colline dominant le Val d'Orcia, à 53 km au sud-est de Sienne. C'est dans cette ville toscane que les concepts urbanistiques de la Renaissance furent appliqués pour la première fois lorsque le pape Pie II confia à l'architecte florentin Bernardo Rossellino le soin de transformer son lieu de naissance en une ville conforme aux idéaux de la Renaissance et digne de porter son nom. Il décida de réaliser un projet de grande ampleur, une place, centre d'une cité idéale, où les pouvoirs civils et religieux se trouvaient réunis dans un même espace. Son harmonie architecturale était chargée d'exprimer l'équilibre de la vie de la cité. Rossellino appliqua les principes de son mentor Léon Battista Alberti, penseur et architecte humaniste, auteur du premier traité d'architecture de la Renaissance. Pienza est donc le premier exemple Renaissance d'urbanisation planifiée. Bernardo Rossellino dessina les principaux monuments du centre urbain qui a été construit en 3 ans, de 1459 à 1462. Alors, nous sommes arrivés par cet espace. Ici se trouvaient les remparts. On est remonté ici, on se trouve sur la place. C'est cet ensemble de bâtiments autour de la place qui ont été dessinés et édifiés par Bernardo Rossellino. On peut commencer par le Duomo. Vous voyez, alors, nous avons dit qu'il était orienté nord-sud. Le sud est là sur la droite, sur le plan. La façade, on verra le détail après. La façade est Renaissance, l'intérieur ne l'est pas. Le deuxième bâtiment, en tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre, enfin à peu près, c'est le Palazzo Borgia qui est ici. On en parlera en détail après coup. Ici se trouve le presbytère, là le Palazzo Comunale, ici le Palazzo Amanati et le Palazzo Piccolomini, qui est le palais du pape. Le Palazzo Borgia, je vous ai dit que c'est une cité épiscopale, à la fois pontificale et épiscopale, donc c'est le palais épiscopal en même temps, ce palais Borgia. La nouvelle vision de l'espace urbain se matérialisa dans la superbe place de forme trapézoïdale, la Piazza Pio Due. La construction des principaux édifices autour de la place commença en 1459 et comprend donc la cathédrale, le Palazzo Piccolomini, le Palazzo Borgia, le Palazzo ou Palazzo Viscovile ou Palais Épiscopal, tout ça c'est le même bâtiment. Le Palazzo Comunale, comme je vous l'ai dit, c'est l'hôtel de ville. Le plan de la ville médiévale fut largement respecté. Un nouvel axe principal, le Corso Rossellino, fut construit pour relier les deux portes principales aménagées dans l'enceinte médiévale, qui fut aussi reconstruite à cette période. L'ambitieux projet s'arrêta là, mais le centre urbain créé pour lui enchanta tellement le pape qu'il pardonna à Rossellino les détournements dont il s'était rendu coupable. La mort du pape en 1464 mettra un terme prématuré au développement du projet de la ville et la ville est abandonnée. En effet, le projet de Pie II, qui consistait à faire de cette ville sa résidence d'été, impliquait la construction et la reconstruction d'une quarantaine d'édifices publics et privés qui auraient achevé de transformer la ville médiévale en une création de la Renaissance italienne. Ces constructions incluaient de nouveaux édifices pour les cardinaux de la suite papale, ainsi que 12 nouvelles maisons pour la population près des murs d'enceinte. La place est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Alors, dans le Palazzo Piccolomini, il y avait une très belle maquette qui permet d'avoir une vision en 3D de cette place. On a donc la façade principale. La place est irrégulière, on va en reparler. Le Palazzo Piccolomini avec sa cour intérieure et sur la gauche, le jardin suspendu, on reparlera de tout ça. Au premier plan, la tour du Palazzo Comunale et ici, au premier plan à gauche, le Palazzo Borgia. Une vue orientée différemment avec la cathédrale, le Palazzo Piccolomini, etc. Voilà. On voit tout de suite sur le... Et une vue plus détaillé de la maquette avec l'ensemble de ces bâtiments carrés, avec trois façades semblables, on y reviendra, et puis ces loggias superposés, le jardin suspendu qui domine le Val d'Orcia qui s'étend vers la droite, et ici le chevet du Duomo, qui est suspendu, enfin lui aussi suspendu en quelque sorte, il a été construit au-dessus du vide et ça a posé des problèmes de stabilité. Alors voilà un plan un peu détaillé pour vous montrer quelque chose de très important. Il y avait une salle vraiment avec une décoration phénoménale, il aurait fallu rester longtemps pour comprendre et apprécier tous les détails de construction, de réflexion sur le plan architectural. Pour aller vite, en quelque sorte, cette place est irrégulière parce que les bâtiments sont orientés différemment. Alors déjà, le vrai sud est par ici. Donc la cathédrale est orientée, l'axe de la cathédrale est légèrement décalé par rapport au sud, au vrai sud, disons. Ici, nous avons la façade et vous voyez que si on poursuit la ligne, l'axe de la cathédrale, on tombe dans l'axe de la rue qui est en face. Et donc les bâtiments ne sont pas parallèles. Ici, celui-ci et celui-là, vous voyez qu'il y a un décalage. Tous ces décalages d'angle, ici par exemple, il y a le presbytère. Le presbytère est légèrement décalé par rapport à la perpendiculaire de l'axe de la cathédrale. Ici, le Palazzo Piccolomini forme un angle assez aigu avec le mur latéral de la cathédrale. Tout ça est pensé et fait pour donner des effets de perspective qui permettent d'avoir l'impression que la place est plus grande qu'elle ne l'est. Ces bâtiments sont assez hauts, assez conséquents et assez rapprochés, mais ces effets de perspective, ces décalages, donnent une impression d'espace qui a été entièrement maîtrisé et voulu. C'est tout à fait étonnant. Donc, à ce titre, la construction de cet ensemble, encore une fois, c'est la première fois depuis l'Antiquité que l'on crée un ensemble urbanistique de grande qualité monumentale, d'après des plans étudiés à l'avance, etc. C'était conçu dès le départ. Ce ne sont pas des bâtiments qui ont été ajoutés les uns aux autres. Et à ce titre, la ville joue un rôle important dans le développement urbain ultérieur en Italie, et ailleurs. Voilà une vue de réel, une photo de cette place avec le Corso Rossellino qui passe en bas, le Palazzo Borgia, le presbytère, la cathédrale, le Palazzo Piccolomini, le Palazzo Manati et le Palazzo Comunale. Alors nous sommes arrivés par cette rue qui est passée entre le Palazzo Piccolomini à droite et le chevet de la... À gauche, pardon. Problème de latéralité. Et à droite, le Duomo. Le chevet. C'est assez impressionnant quand on arrive. Le dégagement sur la place se fait progressivement. C'est une très belle arrivée. Donc la place est dominée par la cathédrale ou Duomo de Santa Maria Assunta, Sainte Marie de l'Assomption. L'édifice en travertin a été bâti sur l'emplacement de l'ancienne église paroissiale, mais orienté différemment. Je vous l'ai dit, est orienté nord-sud avec le portail au nord. La cathédrale terminée en 1462 présente un aspect extérieur purement renaissance, mais le pape fut aussi influencé par la tradition gothique allemande. On verra pourquoi après. Donc cette façade est divisée en trois niveaux, deux niveaux avec une corniche intermédiaire, une série d'arcades qui se répètent au premier et au deuxième niveau, un œil de bœuf disons, et qui est coiffée par un fronton triangulaire orné des armes pontificales, enfin de Pio XII. Vous voyez que ici l'intérieur n'est pas du tout renaissance, parce que le pape, je vous l'ai dit, a été influencé par la tradition gothique allemande. C'est évident, la cathédrale de Pienza suit le modèle des églises halles de Bavière où le futur pape avait été chargé d'affaires de la curie. Alors, ce qui définit une église halle, c'est quand les voûtes des collatéraux ou des bas-côtés sont au même niveau que la nef. Et lors d'une visite avec des amis, là, on a découvert, enfin moi j'ai découvert, je n'avais pas remarqué, qu'à Montargis, le chœur, simplement le chœur, mais est construit un peu comme une église halle, le déambulatoire. Le déambulatoire, la voûte déambulatoire est au même niveau que la voûte du chœur. Mais il y a d'autres exemples en France aussi, on trouve des églises halles quand même. Donc il y a vraiment un contraste entre la façade Renaissance et l'intérieur qui est d'influence gothique, mais avec un gothique très particulier, très ornementé. Il y a des grandes verrières qui donnent beaucoup de lumière à l'intérieur. Et voilà ces décors au niveau des chapiteaux qui n'ont rien de gothique. C'est vraiment l'impression d'ensemble, qui n'ont rien de gothique français, je veux dire. Donc l'intérieur se compose de trois nefs séparées par deux files de piliers. La nef centrale est ornée de larges verrières symbolisant les lumières de l'humanisme. Le pape avait une dévotion particulière pour Marie. Le Duomo renferme cinq retables représentant des Vierges à l'enfant commandées au plus grand peintre siennois de l'époque. Je vous en montre trois sur les cinq. Ici, c'est Giovanni di Paolo, une Vierge à l'enfant surmontée d'une Pietà, la Pietà en haut, avec les saints Antoine Abbé, de gauche à droite, Bernard, François et Sabine, Sabine à droite. Matteo di Giovanni, la Vierge à l'enfant, là, est surmontée d'une flagellation du Christ. La Vierge à l'enfant est sur un trône avec les saints, de gauche à droite aussi, Catherine de Sienne, Bartholomée, Matthieu et Lucie. Et enfin, Lorenzo, ce sont des œuvres de très grande qualité, la photo en mal, c'est sur fond d'or, c'est absolument éblouissant. Ces panneaux sont vraiment très très beaux. Le pape n'a pas hésité à la dépense. Et enfin, Lorenzo di Pietro, di Vecchietta, Assomption de la Vierge entourée des saints, Agathe, le pape Calixte, Catherine de Sienne et Pio. Alors Pio, c'est notre Pio II qui a dû se représenter là. Voilà. Mais là, il y a un copain pape, Calixte. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, je fais un petit retour en arrière, je vous ai dit tout à l'heure que le chœur du Duomo souffrait d'un affaissement qui provoque des fissures, on le voit d'ailleurs dans le sol et dans les murs à l'intérieur, et bien que le pape ait menacé d'excommunication quiconque toucherait à son église, des travaux de consolidation ont quand même été menés récemment. Face à la cathédrale s'ouvre le Palazzo Comunale, ou hôtel de ville, ouvert au rez-de-chaussée par une loggia. Les autres côtés de la place sont occupés par le Palazzo Borgia, ou palais épiscopal, situé en face du palais Piccolomini. Il complète le cadre architectural de la place centrale. Le palais s'appelle ainsi du fait qu'il fut offert par Pie II à son fidèle collaborateur, le cardinal Rodrigo Borgia, qui devint par la suite le pape Alexandre VI, pape qui condamna Savonarole à l'excommunication, à être pendu et brûlé sur la piazza de la Signoria de Florence en 1498. Donc à droite, le palais Piccolomini, qui est le chef-d'œuvre de Rossellino. Il s'inspire du style du palais Rucellai. Alors, c'est une deuxième vue du palais Piccolomini. Et regardez bien les arcades, les fenêtres. Et voilà le palais Rucellai. Il y a une évidente proximité. Il a vraiment repris. Alors les trois façades de la ville sont à peu près semblables, décorées de la même manière, avec ces trois niveaux séparés par des corniches. Et ce qu'on appelle des lésènes. C'est un mot d'architecture que j'ai appris à cette occasion. Ce sont ces colonnes, mais ce ne sont pas des colonnes engagées, ce sont des colonnes qui sont taillées dans la pierre, vraiment, et qui rythment la façade. Hein, c'est assez différent. Voilà, c'est un terme d'architecture. Et la place est décorée par cette très jolie fontaine Renaissance en marbre blanc. Donc, ce palais est édifié selon un plan carré. Il se dresse sur trois niveaux. Et la façade regardant le Val d'Orcia est percée de trois étages de loggia. Les colonnes entre le rez-de-chaussée et le deuxième étage sont de plus en plus fines. Ça donne une impression de légèreté. Et la façade donc donne sur le Val d'Orcia un superbe panorama sur la vallée. Avec, là, on est au premier étage, à l'étage noble, où sont les appartements du pape. Et ce jardin suspendu qui s'étend devant, avec une ouverture au fond aménagée pour profiter. On profite de ce spectacle absolument magnifique, de ce paysage absolument sublime là, typiquement toscan, qui s'étale devant nos yeux. Allez, vous voyez ce qu'on appelle le jardin suspendu, enfin l'architecture nécessitée pour soutenir la force de la quantité de terre entassée à l'intérieur pour arriver à mettre un jardin au niveau du palais. La cour intérieure doit son élégance à des colonnes aux chapiteaux composites. L'intérieur abrite encore la salle d'armes, la bibliothèque de Pie II, où sont conservés des incunables et des objets personnels, et la chambre papale avec son lit baroque. Le comte Silvio, dernier descendant des Piccolomini, est mort en 1962. Les remparts forment un très agréable lieu de promenade dont nous avons profité, mais entre-temps, nous avons suivi le Corso Rossellino pour aller à la Trattoria de la Bocca delle Fate. Alors c'est pas la Bocca, c'est la Bocca. La Bocca, c'est le trou des fées au 38 Corso Rossellino. Alors depuis le début du voyage, notre accompagnatrice nous parlait de plats de sanglier. J'attendais avec impatience ce moment car le sanglier est un de mes plats favoris. Et au menu, il y avait un potage traditionnel à base de légumes et de pain, un ragoût de sanglier cuit dans une sauce à la tomate accompagné de petits oignons grelots confits absolument délicieux. Et le menu se terminait par un gâteau de pâte d'amande au citron. Voilà le Corso Rossellino dans l'autre sens.
Ah oui.
Et voilà la promenade des remparts. C'est un très très bel endroit. Vu sur les environs encore une fois. Et nous poursuivons dans l'après-midi notre voyage vers l'abbaye Sant'Antimo. Nous allons d'abord jusqu'à Montalcino, mais nous continuons vers l'abbaye Sant'Antimo. D'après la légende, elle fut fondée par Charlemagne en l'an 813. Elle a été agrandie par Charlemagne lors d'un passage ultérieur. Une partie date de cette époque, mais elle a atteint son apogée au XIIe siècle avec la construction de l'église, qui est un très bel exemple d'architecture cistercienne romane d'inspiration bourguignonne, le style roman français en gros, que vous avez sous les yeux. Le porche, le porche, mais là vous voyez le campanile, sont d'inspiration lombarde. Il y a des décors lombardes, ces petites arcatures qui se succèdent. Il y a les modillons là, qui sont typiquement français, enfin c'est d'esprit typiquement français. Mais le décor est lombard sur le campanile. Et voici la façade. Nous pénétrons à l'intérieur et on voit une cathédrale romane française quasiment. On découvre à l'intérieur de beaux chapiteaux d'albâtre. parmi lesquels Daniel dans la fosse aux lions. Et nous continuons vers Montalcino, plutôt nous revenons vers Montalcino, on était passé sans s'arrêter. Village célèbre pour son vignoble le Brunello. Nous montons jusqu'à la forteresse pentagonale, là c'est l'hôtel de ville. Voilà la forteresse pentagonale, construite en 1361. Et dans l'enceinte du château, nous sommes installés dans une enoteca, que vous voyez là-bas au fond, sur la terrasse, où nous avons dégusté 3 crus de vin rouge différents, moment agréable s'il en fut. Et la journée se termine en gros ici.
Alors je reprends la parole, je vous garantis que ce sera la dernière fois. Nous revenons en Ombrie, précisément à Perugia, et ensuite vers le lac Trasimène. Voici un aspect de la cité de Perugia. Nous abordons cette cité en franchissant l'enceinte de la Rocca Paolina. La Via Balliona. Voici un autre aspect. Une forteresse construite entre 1540 et 1543 par la volonté du pape Paul III Farnèse. Cette cité faisant partie des états du pape. Elle fut construite après destruction des maisons-tours dont la résidence de Braccio Baglioni. Voilà, première tour. Le voilà, le phénomène, qui était condottiere et gouverneur de la cité de 1438 à 1540. Et cette construction a été réalisée également sur les anciennes rues du centre historique. Voilà, un autre aspect. Et nous sommes entrés dans la cité par la Porta Marzia, une antique porte de l'enceinte murale étrusque. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le centre historique qui s'étend de part et d'autre du Corso Vannucci, nom du peintre le plus célèbre de la ville, Pietro Vannucci, dit le Pérugin, 1448-1523. Voilà la statue du Pérugin, et voilà le phénomène. Sur notre parcours, nous traversons la Piazza d'Italia vers le Palazzo della Provincia, réalisé en 1867. Ensuite, voici la Piazza du 4 novembre, centre historique de Pérouse, d'où s'ouvre le Corso Vannucci. C'est l'artère principale de la cité. Elle est considérée comme étant le Salotto Buono di Perugia, avec ses activités économiques, hôtels, restaurants et des boutiques. Voilà pour les gourmands. Des cafés-théâtres et également... C'est un lieu de promenade appelé en dialecte pérugin Far una vasca. Voici maintenant la Fontana Maggiore, sculptée au XIIIe siècle par Nicola et Giovanni Pisano. Voilà un autre aspect. Elle représente, entre autres, les mois de l'année. Si. Et voici le Duomo gothique, appelé Cathédrale San Lorenzo, réalisé entre 1345 et 1490. Une statue du pape Jules III de 1555 et une chaire de 1425 où prêcha Saint Bernardin de Sienne en flanque l'entrée. À l'intérieur, le chœur. On découvre dans une chapelle le mariage de la Vierge. Puis une déposition de croix de Federico Barocci. Un vitrail représentant l'hommage des bergers. Et dans la nef centrale, un pilier porte la Vierge des Grâces de Gian Nicola di Paolo. C'est ensuite le Palazzo dei Priori qui nous ouvre ses portes. Il est considéré comme le plus bel édifice de la cité, ayant comme symbole de la ville. Alors, le voici. Un lion guelf et un griffon en bronze de 1274 garde le portail. Je dois avoir encore une vue. Voilà. Le lion à droite, le griffon à gauche. Il s'agit là maintenant de la Galleria Nazionale dell'Umbria. Et parmi ses œuvres, une Vierge à l'enfant. Vierge à l'enfant trônant de Fra Angelico. Une adoration des mages du Pérugin. Une annonciation de Piero della Francesca. Alors, la voici. Voilà. Nous quittons Perugia. Et nous dirigeons vers le lac Trasimène. Nous abordons ce lac qui est entouré de collines basses. Voilà une première vue, une seconde. À Passignano sul Trasimeno. Il est considéré comme étant le quatrième lac d'Italie pour son étendue, 128 km². Une circonférence de 40 km. Il est alimenté par des pluies et par quelques torrents, d'où des variations de niveau avec une profondeur moyenne de 5 mètres. Des bords du lac, une vedette nous mène vers l'Isola Maggiore. Et là, nous allons suivre ce chemin jusqu'à l'église qui se trouve en haut. Alors, Isola Maggiore est pour sa découverte. Nous quittons le ponton et nous nous engageons sur l'île. Nous passons près de la Chiesa di San Salvatore du XIIe siècle qui est actuellement fermée. La voici. Et nous poursuivons vers le haut de l'île et vers l'église San Michele et Arcangelo. Pour y découvrir les fresques du XVe et XVIe siècle. Et un Christ en bois peint vers 1460-1465. Ayant regagné la rive, nous admirons le travail d'une dentelière avant de découvrir d'autres ouvrages au musée de la dentelle. Un beau travail, très fin. En voici une autre. Après une pause, boisson fraîche. Nous découvrons cette formation intitulée lasciare il bagno pulito perché la mano che lo pulisce è la stessa che vi fa il caffè. Le patron ne manquait pas d'humour. Voilà, les toilettes propres parce que la main qui les nettoie est la même que celle qui sert le café. Puis nous rentrons vers Passignano. Alors, je ne voudrais pas quitter ce lac avant de vous raconter une histoire avec un grand H. Ce fut un lieu de bataille de la Deuxième Guerre punique. En 217 avant Jésus-Christ, les Romains y subirent l'une des pires défaites de leur histoire devant le général carthaginois Hannibal, qui attira les troupes du consul Flaminius dans un piège au bord du lac. Ce fut une catastrophe puisque quelque 16 000 légionnaires périrent. Hannibal, pour sa part, ne perdit que 1500 hommes. Alors, voilà un aspect de la bataille. Alors, on peut considérer maintenant que la route vers Rome est ouverte. Je vous remercie.
Benvenuti a Orvieto. D'origine étrusque, Orvieto est une ville de 21 000 habitants, située au cœur des collines de l'Ombrie. Elle est perchée entre ciel et terre, sur un promontoire rocheux. Nous emprunterons donc un funiculaire qui grimpe le long de la falaise pour parvenir à la place principale. Sur la place principale, la façade du Duomo nous révèle brutalement son éclatante beauté. Le Duomo, chef-d'œuvre de l'art gothique italien, date de 1290. Sa façade est ornée de reliefs de marbre que vous apercevez sur la partie inférieure. De mosaïques, de merveilleuses mosaïques réalisées par le Siennois Lorenzo Maitani. Les trois portes de bronze ont été réalisées au XXe siècle par le sculpteur Emilio Greco. On remarquera sur la façade la grande rosace que vous apercevez sur la partie supérieure. Cette grande rosace, qui est entourée de 52 têtes de saints, symbolisant les 52 dimanches autour du Christ Rédempteur. Cette magnifique rosace est l'œuvre de Andrea Orcagna. La façade se présente sous forme d'un triptyque gothique où on notera la hardiesse des lignes verticales ainsi que la richesse des décorations, notamment les mosaïques monumentales qui évoquent les épisodes de la vie de Marie. Donc sur cette photo, vous apercevez la nativité de Marie. Ici, c'est l'Assomption de la Vierge. Et là, vous avez une version plus détaillée de la nativité de Marie. Donc vous voyez un petit peu le détail de ces mosaïques entourées par les colonnades en forme de fronton triangulaire. Là, nous découvrons la chapelle San Brizio, qui veut dire Saint-Brice, qui est, avec la façade, le joyau du Duomo d'Orvieto. Elle est composée d'un cycle de fresques sur le jugement dernier, inspiré par l'Évangile et l'Apocalypse de Saint Jean. Fra Angelico a commencé à réaliser les fresques du plafond, mais il meurt en 1499. Et c'est Luca Signorelli, élève de Pietro della Francesca, qui poursuit son œuvre. C'est une œuvre gigantesque qu'il réalisa en 4 ans, jusqu'en 1503, ce qui constitue un record exceptionnel dans l'art italien pour une œuvre de cette ampleur. La fresque que vous apercevez sur cette vue est celle de la résurrection de la chair, qui donne au corps l'impression d'une danse. Et vous voyez par rapport aux personnages et à leur anatomie qu'il s'agit sans doute du prélude à la célébration de la beauté du corps humain par Michel-Ange. Voici cette partie de la fresque intitulée « Les damnés de l'enfer ». Comment ne pas être effrayé par les corps convulsés en proie aux démons ? Cette partie de la fresque représente les élus du paradis. Luca Signorelli est le premier peintre italien à représenter des nus dans les églises. Et il se dit, d'après les recherches que j'ai faites sur Internet, que Michel-Ange se serait inspiré des fresques de San Brizio pour le jugement dernier de la chapelle Sixtine. Dernière grande fresque, la prédication et les actes de l'Antéchrist. Un faux prophète porte son œuvre de mensonges et de destruction devant des scènes de massacre, de femmes prostituées en situation d'arrogance. Sur cette vue, vous avez sur la voûte, sur le début de la voûte de la chapelle San Brizio, une immense fresque du Christ juge et le monde qui a été peinte par Fra Angelico. Toujours dans la chapelle San Brizio, une peinture de Dante à la lecture. Une Pietà descente de croix en marbre de Ippolito Scalza. Et enfin, une vierge icône du XIVe siècle sur fond d'or. Tiens, une apparition de Soulage Orvieto, mais non, ce sont de magnifiques vitraux d'albâtre, contemporains sans doute, quand le ciel et la terre se conjuguent pour filtrer la lumière, quel enchantement de couleurs. Vous voyez, avec de l'albâtre, hein. Magnifique. Après la visite du Duomo, nous parcourons les ruelles médiévales d'Orvieto. Et les ruelles charmantes sont embaumées par le parfum puissant des jasmins. Au retour de cette déambulation, nous retrouvons ce magnifique Duomo en perspective. Et vous remarquerez que sur les façades latérales, on retrouve cette alternance de marbre blanc et de pierre noire comme on retrouve, comme il y avait à Sienne. Hein. Et un dernier regard me porte sur une des mosaïques principales qui représente le baptême du Christ par Jean-Baptiste. Et nous quittons Orvieto par les jardins qui bordent la falaise. Montepulciano. Ce jour-là, on se lève tôt, très tôt même, car il faut refaire la valise. Après 8 jours à notre aise, et au travers des petites routes sinueuses dans la campagne toscane, notre autobus nous conduit à Montepulciano. Montepulciano est une petite cité de 12 000 habitants située au cœur de la Toscane, dans la province de Sienne. Elle est perchée sur un promontoire entre le Val de Chiana et le Val d'Orcia dont vous a parlé Jean-Louis tout à l'heure. Montepulciano est célèbre pour son vin, le Vino Nobile, l'un des vins de Toscane les plus appréciés avec le Chianti. Au cours des siècles, Montepulciano a souffert de la rivalité des Siennois et des Florentins qui la contrôlèrent tour à tour. Notre visite va commencer hors les murs de Montepulciano, en bas de la cité, par un des joyaux de la Renaissance italienne. L'église San Biagio, qui veut dire Saint Blaise, a été construite sur les ruines d'une ancienne église et sa construction est achevée vers 1580. Elle est très ramassée, de forme carrée, elle a la forme d'une croix grecque avec une coupole, 3 façades identiques et, comme vous le voyez sur la vue précédente, une façade avec une abside semi-circulaire avec une terrasse à balustrade. une belle tour campanaire s'érige à gauche de la façade principale. Une deuxième tour était prévue à droite, mais elle n'a jamais été réalisée. Dans cet espace complètement isolé de verdure, apparaît un peu miraculeusement le Teatrino, le petit théâtre, et le petit puits qui témoigne de l'activité qui devait régner autrefois autour de cet espace en bas de la cité. Notre autobus fait plusieurs allers et retours entre la vallée et la cité pour trouver un espace pour stationner. Nous devons arpenter quelques ruelles médiévales fort pentues, très pentues même. Mais le groupe va arriver sur Piano Marciano pour accéder à la Piazza Grande, qui constitue le cœur historique de la cité. Il regroupe les principales curiosités de Montepulciano. Il Palazzo Comunale, il Palazzo Taruggi et le Duomo que nous visiterons. Il Palazzo Comunale, construit au XIVe siècle, Bartolomeo Aragazzi fait ajouter la façade de style Renaissance et la tour de contrôle. Et sa ressemblance avec le Palazzo Vecchio de Florence sont aux yeux. Le Palazzo Taruggi, entièrement revêtu de travertin, il fut construit au XVIe siècle par Antonio de Sangallo et c'est un bel exemple d'architecture civile de caractère Renaissance. Le Duomo. Rien à voir avec le Duomo d'Orvieto. Sa façade de style Renaissance est massive, malheureusement inachevée. Et cette façade austère contraste avec la richesse de l'intérieur que nous allons visiter. Alors, la photo est un petit peu floue. Il s'agit d'un grand triptyque de l'Assomption de la Vierge réalisé par Taddeo de Bartolo. C'est aujourd'hui jour 8, donc samedi, c'est jour de mariage. Appréciez la richesse de la décoration florale. Vous voyez, il y en a partout. Et là, vous voyez le triptyque de l'Assomption qui domine le maître-autel. Voici le remarquable gisant de marbre. C'est celui de Bartolomeo Ragazzi, celui qui a élaborer la façade du Palazzo Comunale. Ce gisant a été sculpté en marbre de Carrare par Michel Ozzo en 1428. Mais Jean-Paul est un fin organisateur de visites, puisque les mariés nous ont invités à un vin d'honneur dans les chais de Montepulciano, qui ouvrent leur galerie dans les ruelles de la cité vigneronne. Pour découvrir d'autres robes que celles de la mariée, mais celles du vino nobile qui a rendu célèbre le Montepulciano. Le Montepulciano di Toscana, à ne pas confondre avec le Montepulciano d'Abruzzo. La zone de production s'étend sur 670 hectares, regroupant une cinquantaine de producteurs. C'est un assemblage constitué à 70% du fameux cépage le Prugnolo Gentile, à 70%, et notamment avec d'autres cépages, notamment le Canaiolo. Compte tenu de ce que nous avons vu dans les vitrines, le prix d'une bouteille de Montepulciano oscille entre 15 et 20 euros. Et Jean-Paul, multipliant les surprises, nous invite à poursuivre cette dégustation de ce vin d'honneur par une dégustation in situ dans un charmant agro-tourismo au cœur des vignobles toscans. Mais le car réussira-t-il à atteindre cet agro-tourismo dans le chemin pierreux qui parcourt entre les vignes? Reconnaissez que pour le jour du départ, nous avons choisi un cadre idyllique, grandeur nature pour apprécier les spécialités toscanes. Mais déjà, le grand oiseau blanc nous attend au-delà des Giardini Boboli. Allora, arrivederci les 12 collines de Toscane. Arrivederci Olivier, vignes et sarments. Arrivederci majestueux cyprès, cyprès de nous. Grazie mille.